7h15, on a des chiffres ce matin de la Société canadienne d'hypothèques et de logements concernant le marché de l'habitation à Montréal depuis le début de la pandémie.
Oui, et c'est intéressant parce que certaines constatations qu'on avait prédites, mais qu'on ne pouvait pas voir dans le concret. Et là, on nous dit, écoutez, le nombre de copropriétés à vendre, est-ce que ça a évolué au cours des derniers mois? Ben oui, évidemment, il y a eu plus de copropriétés mises en vente, mais ce qui est intéressant, c'est que dans des quartiers style Griffintown, les gens qui vendent en proportion ne sont pas plus qu'avant des investisseurs ou des résidents. C'est-à-dire, il y a des gens qui possédaient des condos dans Griffintown pour les louer comme investissement, et il y avait des gens qui vivaient dedans. Et la proportion de vendeurs demeure la même. Évidemment, il y a plus de ventes, il y a plus d'offres, mais le ratio en pourcentage est le même. Donc,
attends, je suis pas sûr que je te suis.
Ben, en somme, c'est que s'il y avait, disons, une personne sur deux qui était un investisseur avant qui vendait, puis une personne sur deux qui était un résident, on est encore dans les mêmes proportions.
Okay.
Donc, ce que ça veut dire, c'est simplement que il y a, dans le moment, pas un changement entre ceux qui vendent parce qu'ils sont des investisseurs ou des résidents.
Okay.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les condos qui sont à vendre, qui étaient alloués sur Airbnb, Paul. Tu sais, les fameux condos là, sur le plateau puis Griffintown, meublés à des prix de fou avant. Là, tu t'en vas sur centris.ca, qui est le site des courtiers, et il pullule, il y en a partout. Et c'est ça qu'on remarque, c'est que les condos qui étaient sur Airbnb sont maintenant rendus davantage en location long terme, surtout dans des quartiers comme Griffintown ou le plateau Mont-Royal ou Ville-Marie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que au Québec, surtout à Montréal, disons, à Montréal, il y a une concentration de quartiers où il y a des Airbnb. Ça veut dire que, contrairement à d'autres endroits où c'est plus éparpillé, Montréal, c'est vraiment la demande ou l'offre pour des appartements Airbnb était très concentrée à Plateau Griffintown. Et donc, ce sont les mêmes condos, les mêmes appartements qui maintenant reviennent sur un marché long terme. Et évidemment, ils sont à des prix très élevés parce qu'ils sont souvent meublés, tout équipés et bien placés.
Mais là, j'ai une question pour toi. Ouais. À la lumière de cette analyse, est-ce que la valeur des propriétés, donc le prix de vente, va continuer de gonfler ou si ça se stabilise?
Bien, il faut faire attention, c'est qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a un, les taux d'intérêt sont très bas.
Ouais.
Et on remarque que le marché immobilier est très, très actif. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand changement à ce niveau-là. Mais ce qu'on nous dit, c'est une chose. C'est qu'il y a un déplacement. Donc, est-ce qu'on quitte le centre-ville pour les banlieues? Bien, on voit qu'il y a les quartiers, justement, centraux comme Griffintown voient certains déplacements vers les banlieues où les gens se sont dit pendant la pandémie, « Oups, le centre-ville est moins intéressant qu'avant. » Et d'ailleurs, Paul, s'il y a une affaire qu'on peut regarder d'un point de vue externe, c'est que le centre-ville, les gens sont allés récemment, c'est mort. Alors, s'il y a bien une place où tu as l'impression que le marché de l'immobilier est moins fort qu'avant, ou va être moins fort qu'avant, où il y a plus de risques, parce que pour l'instant, ça ne se traduit pas nécessairement dans des chiffres qui sont catastrophiques, mais c'est le centre-ville. Et d'ailleurs, je me suis inscrit à des condos neufs là, pour le plaisir au centre-ville, pour voir un peu le marché.
Et puis?
Donc, je me fais harceler, Paul. Je reçois des textos. N'oubliez pas, votre chance d'acheter tel condo, Écoute, avant, tu sais, ils nous disaient, réservez votre condo vite, là, vous ne l'aurez pas. Puis c'était vrai, il y avait une file d'attente. Là, je me fais harceler de textos monsieur, n'oubliez pas notre visite guidée, vous aurez un 10 000 $ de rabais. Tu sais, moi, quand tu essaies de me vendre un condo de 500 000, tu me dis que j'ai 10 000 de rabais. Je trouve ça drôle. C'est comme si tu me dis, achète un condo de 300 000, je te donne la sécheuse. C'est à peu près l'équivalent.
Mais ce que je remarque aussi, là, peut-être que je sais pas si tu peux ajouter à ça, mais ça dépend vraiment de l'endroit puis du type de propriété. Là. Je me fais raconter par des membres de l'équipe là, des offres multiples sur la même maison. Tu vas me dire, bon, chalet ou autre, là, mais pas juste ça. Là. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en fait sortir de Montréal, là. En tout cas qui veulent avoir de l'espace.
Oui, puis te dire, en pandémie, j'ai vécu la pandémie dans mon petit condo.
Ouais.
J'aimerais ça avoir un bureau ou j'aimerais ça avoir une cour. Parce qu'être confiné dans un condo, c'est pas la même chose que vivre la vraie vie dans une maison. Je te donne un exemple. Moi, je suis dans un bas duplex dans Rosemont. J'ai une petite cour. La pandémie, je l'ai vécue, disons, avec une certaine réalité de « je pouvais aller dehors ». Mais t'imagines-tu quand t'es dans un condo puis que ton dehors, c'était, je sais pas, la terrasse du coin du restaurant ou du café. Ta vie active de citoyen, tu la vivais à l'extérieur de ton appartement. Mm-hmm. Et puis là, tout est fermé. T'as plus, puis là, l'hiver s'en vient.
Ouais.
Donc, ça. Mais si tu regardes, là, t'sais, vraiment au niveau des statistiques, qui est intéressant, par exemple, c'est le déplacement. On monte des quartiers comme Griffintown, où est-ce que la variation en pourcentage de avril à août, de 2019 à 2020, elle est fulgurante au niveau des nouvelles copropriétés à louer long terme ou à vendre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est,
okay.
C'est peut-être des quartiers qui sont plus pointus ou, disons, pointés.
Bon, il y a peut-être en terminant un mot sur Uber. Là, ben, il y a Uber, évidemment, le service de transport, mais aussi Uber Eats là, pour la livraison de bouffe. On comprend qu'il y a une...
Il y a un déplacement.
Il y a un déplacement. Pas mal des piastres.
Ben, en fait, tu sais, on voit qu'il y a des revenus qui sont à la baisse. Donc, pour le trimestre, fini le 30 septembre, on est à 3,1 milliards de revenus au lieu de 3,8. Donc, tu vois, il y a vraiment une baisse qui est liée, effectivement, au déplacement de gens. Mais quand tu t'en vas dans ce que j'aime beaucoup au niveau comptable, et ce qui m'a toujours fait fantasmer quand je regarde des états financiers, c'est l'information sectorielle. Les entreprises sont obligées de diviser leurs revenus selon les secteurs. Et là, on voit que la mobilité a baissé, donc le déplacement de passagers est vraiment significativement baissé de 50 %. Mais au niveau des livraisons, Paul, 124 % de plus. L'affaire, par exemple, comme citoyen, ce qu'on peut se dire, Uber bouffe la marge de profit du restaurateur. Il y a certains restaurateurs qui vont dire « Oui, mais ça m'a permis d'aller chercher des ventes que j'aurais pas faites. »
Non, mais ça coûte cher. Là. Quand tu calcules exact. Tout ça, là, les frais de livraison, le prix que le restaurateur te charge dans certains cas, puis que même lui, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas le choix. Là.
Même le citoyen, il paye les frais de service, ben oui, non, le type, les taxes.
Oui, oui.
Donc, la valeur de ton assiette qui arrive chez vous, elle est disproportionnée par rapport à ce que tu paierais en restaurant si tu vas le chercher. Et d'ailleurs... Si on peut vous dire ça, si vous voulez vraiment encourager votre restaurateur, Uber fait tellement de marge que si vous êtes capable d'aller vous-même chercher votre lunch, puis que vous y allez comme ça une fois par semaine de plus qu'avant au lieu de commander par Uber, au-delà de la simplicité, vous allez aider vraiment la marge de votre restaurateur parce que ce service-là n'est pas gratuit. On n'est plus à l'époque où Georges, pour 2 piastres, allait livrer une pizza en dessous de la table. Là, on est dans... Non, mais c'est vrai que c'était ça avant. Et là, on est beaucoup plus dans... On a un service qui coûte une forte marge au restaurateur et lui, ça ne lui permet pas d'avoir une marge qui est suffisante. Ça lui permet de faire des ventes, puis de survivre, puis de payer ses employés, mais pas pour générer un modèle d'affaires qui se tient.
Merci, monsieur. Salut. Bonne fin de semaine. 7h21.